Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine au sommaire de Ça roule, histoire des marques d'hier et d'aujourd'hui avec des marques qui ont marqué le transport français telles que Unic, Bernard, Semois ou encore Willem. Nous allons revenir sur l'histoire de ces rois de la route d'un autre temps. Nous allons commencer notre histoire des marques avec la marque Bernard, qui a été créée par Édouard Bernard en 1922. Il faut être un fanatique de poids lourd ou bien avoir vécu à cette époque pour connaître les camions Bernard. Malgré un feuilleton franco-américain avec le constructeur de poids lourd Mack, il faut revenir malgré tout sur la fin des camions Bernard, malgré donc son puissant allié américain. À l'origine, pourtant, l'entreprise Bernard est une entreprise florissante, créée par Édouard Bernard en 1922, autodidacte passionné par la mécanique. Édouard se lancera d'abord grâce à une ingénieuse invention de benne sur vérin actionnée par le moteur du véhicule, révolutionnant le levage par la même occasion. Et comme un certain nombre d'amoureux de mécanique, Édouard Bernard va alors se rêver constructeur. Et même le devenir définitivement en 1928, après la vente de son brevet à la carrosserie Fernand Genève. Les bennes Bernard devenant les camions Bernard. Il faut dire que rapidement, Bernard avait commencé à monter ses bennes à vérin sur ses camions et les vendre déjà montées aux clients. L'idée d'un camion pour Édouard Bernard était de concevoir les meilleurs camions possibles, considérant que la qualité, la fiabilité et la solidité de ses productions rendaient acceptable un prix supérieur grâce à un prix de revient sur la durée inférieure à la concurrence. On qualifiera vite les camions Bernard de Rolls des camions ou les seigneurs de la route. Il n'hésite pas, par ailleurs, à adopter des moteurs diesel dès le début des années 30. À la sortie du second conflit mondial, les camions Bernard doivent suivre les directives du plan Ponce, faisant partie, quelque temps, de la Générale Française d'Automobile, la GFA, aux côtés d'Unic et sous la houlette de Simca. Mais rapidement, la société reprend du poil de la bête et se remet à produire de façon indépendante dans ses ateliers d'Arcueil et de Bagneux. Bagneux, d'ailleurs, en région parisienne, où siégeait le siège de l'entreprise Bernard. Malheureusement, l'âge d'or de l'entreprise Bernard va tourner court, puisqu'en 1951, son fondateur, Édouard Bernard, décède. Début alors d'une lente descente aux enfers pour l'entreprise Bernard. Pourtant, la société est florissante, mais les héritiers Bernard sont partagés entre vendre la société et investir dans l'immobilier ou bien poursuivre l'activité. Il y aura une latence du pouvoir sensible entre 1951 et 1957, laissant alors la concurrence rattraper son retard et permettant à Mack Trucks, le constructeur de poids lourds américain, qui désirait bien sûr conquérir l'Europe avec ses camions, d'entrer donc au capital de Bernard, sans en prendre toutefois la majorité en 1955. La compagnie fit faillite 2 ans plus tard, en 1957, permettant au fils d'Édouard Bernard de reprendre l'entreprise avec l'appui et les garanties du géant américain Mack. Commence alors une collaboration entre le français et l'américain, une collaboration commerciale ou technique plus ou moins appuyée. Entre-temps, les frères Bernard tentent de relancer la gamme en dotant ces camions d'un V8 refroidi par air de 200 chevaux de chez Alstom. Sans succès, au début des années 60, les camions Bernard s'essaient à tous les styles. Un style classique avec capot moteur carrossé par Pelpel, ou un style télévision étrange, l'avant ressemblait à un poste de télévision, d'où ce surnom, mais si 60s au jour d'aujourd'hui, mais perturbant à l'époque. Il était dessiné par Philippe Charbonneau, pour le carrossier Pelpel, là encore. L'entreprise Bernard tentera également de faire homologuer sans succès son camion frigorifique à 8 roues, avec le look télévision justement. Autant de projets qui font perdre de l'argent aux camions Bernard, qui doivent se résoudre à laisser l'allié américain Mack prendre le contrôle. Les camions Bernard deviennent alors les camions Mack Bernard. Dès lors, la collaboration va se faire plus précise. Des camions Mack seront produits dans les usines de Bagneux et d'Arcueil. D'autres auront des bases Mack, mais des carrosseries spécifiques, notamment une carrosserie réalisée par Genève, justement, le carrossier, qui avait racheté le brevet d'ébène Bernard, et il utilisait également cette dernière pour la marque unique. Ça contribuait, à l'époque par contre, à faire une confusion entre les deux marques. Mais malgré la présence du constructeur américain Mack au capital, ça ne suffira pas à redresser l'entreprise Bernard. Il faut dire que Mack Trucks, en pleine expansion outre-Atlantique, préférerait investir dans l'agrandissement de ses usines américaines que dans cette coûteuse filiale française dont la gamme peu cohérente n'arrivait plus à émerger sur le marché français et encore moins américain. En 1966, l'Américain décide donc de fermer sa filiale et de transférer les machines et le matériel dans son usine iranienne de Téhéran. Mais parfois, il y a une justice. Les investissements américains de Mack, qui étaient alors gigantesques, l'obligèrent à trouver un bailleur de fonds. C'est la Signal Company qui sera là pour épauler donc Mack et essayer donc de revendre une première fois une partie de ses actions à Renault en 1979, puis la totalité en 1990. La boucle était donc bouclée. L'Américain, donc, qui avait absorbé la marque française, s'est fait absorber par une autre marque française. La seconde histoire des marques des poids lourds va être la marque Unique. La marque Unique a été créée par Georges Richard en 1904 grâce à des capitaux fournis par le baron Henri de Rothschild. Son projet initial était de rationaliser la production, déjà à l'époque, et ne produisant que peu de modèles différents et surtout l'usage de pièces communes interchangeables, d'où le nom Unique. On retrouvera ce principe de limitation des modèles chez André Citroën et bien sûr Henry Ford. Les premiers locaux de Puteaux, situés rue Saint-Maur, se révélant trop exigus, la société s'installe alors Quai National, toujours à Puteaux, en région parisienne. Pour cette opération, Georges Richard rachète les automobiles Bardon. Unique produit alors des automobiles simples et robustes pour les particuliers, des caractéristiques qui se sont également plébiscitées par les premières compagnies de taxis automobiles. Le catalogue alors proposé à la clientèle s'étoffe et les ventes se développent rapidement. La société remporte notamment d'importants marchés de taxis pour Paris, Londres ou encore Monaco. Pour faciliter les ventes auprès du grand public, Georges Richard a une idée. Il va créer la Banque Automobile, le premier organisme de crédit pour les automobiles. Alors que la marque Unique est en pleine effervescence, en 1922, son fondateur, Georges Richard, meurt dans un accident. Et Georges Dubois prend alors la direction de l'entreprise et lance la série L. Jusqu'en 1922, Unique fabriquait des automobiles. Il évolue peu à peu vers des versions utilitaires. Dès les années 20, Unique est le premier fabricant de camions en France. En 1930, Unique construit ses premiers moteurs diesel avec une licence Mercedes. Il abandonne alors la fabrication des automobiles en 1938. À partir de 1957, la marque Unique présente sa gamme nouvelle à cabine métallique, à capot longchamp et moteur 6 cylindres sur l'ensemble. Les gammes Pyrénées avec le Somport ou le Puymoran surmonté par la gamme Haute-Alpes, comme le Verdon, l'Isoard ou le Galibier. Elle est épaulée par la gamme Vosges, 4 cylindres, à cabine Saint-Cloud, issue de camions légers Fiat. Mais entre-temps, le constructeur Simca rachète Unique en 1952 pour en faire sa branche poids lourd. C'est en 1966 que la marque Unique passe sous le contrôle de Fiat, qui regroupe ainsi les modèles poids lourd Unique, OM et Fiat Someca. L'ensemble deviendra Iveco en 1982. Allez, tout de suite, une petite page musicale avec, j'avais envie de rendre un petit hommage à nos amis routiers, Max Meynier, La Route. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission sur l'histoire des marques des rois de la route d'un autre temps. A tout de suite.
Il y a la maison, la famille, l'école pour les petits. Et il y a ton regard étonné quand les gens te demandent « Où est-il ?» comme on dit d'un marin. Et il y a ta réponse, toujours la même, sur la route, comme on dit sur la mer. Il y a le téléphone, mes lettres d'un bled ou d'une frontière. Et il y a ton sourire quand les enfants te demandent « Où il est, papa ? C'est comment ?» Et ta réponse, toujours la même, « Où il est, papa ? C'est la route. » Il y a les copains, le relais, les serveuses dont tu n'es pas jalouse. Il y a le café du matin, le bahut qui m'attend au parking. Et il y a tes angoisses de certains soirs, l'oreille collée au transistor, en attendant mon nom et ton prénom. Et puis il y a le vent, le brouillard, le verglas, et tes façons de faire semblant de rien quand tu es sans nouvelles. Il y a les soirs d'hiver, mes nuits dans la couchette que tu m'as arrangée. Et il y a notre chambre et ton sommeil solitaire. Enfin, il y a ton rire, tes yeux, ta voix, les cris des enfants, quand on se retrouve parfois pour un grand, grand week-end. Et puis demain, après-demain, il y aura la route. La route. Toujours la route.
C'était l'ami et regretté Max Meynier avec le titre « La route ». Allez, sans plus attendre, on retourne à la suite des histoires des marques d'hier et d'aujourd'hui avec les rois de la route d'un autre temps. Troisième donc histoire des marques des rois de la route d'un autre temps avec la marque Somua. Alors Somua qui voulait dire « Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie ». C'était un constructeur français de poids lourds et d'engins militaires fondé en 1914 par Schneider et en fusionnant avec cinq fabricants industriels, à savoir Boutet, Champignol, Farco, la Société française de machines-outils et Gégère. À l'origine, la société fabrique principalement des obus, des machines-outils et des engrenages, auxquels vont s'ajouter du matériel hydraulique et des motoculteurs. La société, qui est installée à Saint-Ouen, en région parisienne, développe dès 1916 la branche poids lourd de Schneider. Elle se spécialise dans la construction d'engins mécaniques lourds, camions, chars, bus, lutte contre les incendies, matériel ferroviaire. Maîtrisant parfaitement la construction mécanique et les machines-outils, le constructeur se fait vite une réputation de qualité, notamment dans la fabrication de boîtes de vitesse silencieuses. Pendant la Première Guerre mondiale, Somua produit des chars et des engins blindés, faisant un large usage des technologies du groupe Schneider. Le premier modèle notable d'ailleurs est l'énorme char Schneider CA1, mais aussi par exemple son cousin, le tracteur d'artillerie Schneider CD2. Impressionnant pour l'ennemi, mais pas très efficace dans les combats. Ils ont l'avantage d'ouvrir la voie aux régiments mécanisés futurs. À la fin des années 30, Somua produit pour l'armée française le puissant char S-35, le plus puissant du moment. Après la Seconde Guerre mondiale, Somua est intégré par le plan Ponce dans l'Union française automobile, l'UFA, aux côtés de Panhard et de Willem. Somua doit construire des camions de gamme intermédiaire, 5-7 tonnes. Elle produit la gamme JL à moteur sous licence Eisenmann, puis notamment en association avec Panhard, des poids lourds, camions ou bus animés du robuste moteur Panhard. Le plus connu étant le bus RATP OP5. En 1955, la marque Somua, Renault poids lourd et Latil fusionnent et deviennent la marque Saviem. Quatrième histoire des marques des rois de la route d'un autre temps, la marque Willem. Willem est un constructeur français fondé à Neuilly, dans le département 92, en 1926 et qui a toujours été consacré aux poids lourds. L'activité des camions Willem va être lancée par son créateur Louis Willem qui débute en 1919 dans le reconditionnement des Liberty Trucks de l'armée américaine, abandonnés alors en France après la guerre et par la vente de pièces détachées. Environ 9500 camions standardisés ont été produits par 15 constructeurs américains différents à partir de 1917 et 7500 environ ont été envoyés de ce côté de l'Atlantique. Le véhicule est animé, quant à lui, par un moteur de 52 chevaux couplé à une transmission à 4 rapports. La vitesse maxi, quant à elle, est de 24 km/h. À partir de 1930, Willem conçoit et construit ses propres modèles, ainsi que ses propres moteurs qui acquièrent vite une excellente réputation de puissance et de fiabilité auprès de la profession. Sa clientèle est principalement constituée de grandes flottes d'entreprises de travaux publics. Willem se spécialise ensuite dans la production de tracteurs routiers pour charges lourdes dès les années 1930. Des poids lourds spécialement conçus affrontent notamment les conditions extrêmes des zones désertiques, dont le Sahara. Entre 1940 et 1960, Willem propose de gros moteurs, 4, 6 et 8 cylindres, avec respectivement 9025 cm3, 13400 cm3 et enfin 18050 cm3. L'allure des cabines également, qui participe à l'image du constructeur, comme de ses clients. Il y a les cabines nez de requin, puis Sahara pour le climat tropicaux et enfin les cabines avancées boules. Mais la concurrence est de plus en plus féroce. En 1950, Willem emploie 1240 salariés et produit environ 70 camions par mois. Mais malgré sa spécialisation dans les modèles très puissants, Willem doit faire face à une concurrence nombreuse à partir des années 50. Berliet tout d'abord, Bernard unique. La société peine à renouveler ses modèles. Les commandes chutent et plusieurs vagues de licenciements se succèdent alors. Quant à Louis Willem, il meurt en 1958 et les héritiers ne trouvent pas de solution miracle. Un premier accord est passé avec Unique qui fournit notamment le moteur de l'Isoar. Cet accord ne dure que 18 mois. Willem se rapproche alors de l'anglais AEC pour Associated Equipment Company. En 1962, et des camions Willem BMC apparaissent jusqu'en 1964. Ils n'ont pas la puissance et la fiabilité des productions passées. Et c'est la catastrophe. L'effectif chute à 150 employés et le constructeur doit quitter son usine de Nanterre pour s'installer à Suresnes. Une partie des licences Willem est ensuite rachetée en 1971 par PRP, pour Pérez Raymond Paris, pour produire des engins lourds. La marque disparaît à la fin des années 60, mais les camions Willem ont longtemps continué de sillonner les routes françaises avec leurs lourds fardeaux. Voilà, cette émission se termine avec, comme je le dis toujours, le temps qui nous était apparti est parti, avec cette émission sur l'histoire des marques de ces rois de la route d'un autre temps. Je vous dis, quant à moi, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route. Vive.